Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. Dans nos mémoires collectives, l'année 476 représente la chute de l'Empire romain d'Occident et le début pour la Gaule romaine d'une ère nouvelle. Pourtant, l'historiographie récente, notamment grâce aux travaux de l'historien allemand Karl Ferdinand Werner, a réfuté l'idée, ou plutôt le concept, d'une coupure nette entre d'une part une antiquité bien complexe, d'autre part un Moyen-Âge jugé un peu trop rapidement par rapport, enfin, et aussi à une Renaissance surévaluée. Surtout, cette date de 476 amène le chercheur à se poser la question de la persistance de la romanité. Sommes-nous, au fond, des Gaulois romanisés ? Sommes-nous des Germains romanisés ? Ou bien, simplement, des Romains tout court ? Depuis des siècles, ces questions obsèdent les Français, fascinés par leurs origines, par le désir de percevoir où se situe réellement le commencement de notre histoire et, disons-le, de notre nation. Pour évoquer cette romanité, pour découvrir les métamorphoses de la perception française de cette romanité à travers notre histoire, je reçois Claude Nicolet. Claude Nicolet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, ancien membre de l'École française de Rome, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Rome, ainsi que sur la République, le sentiment républicain à travers les âges. Je me contenterai de citer l'idée républicaine en France chez Gallimard. Et vous venez aussi de publier chez Perrin un livre de réflexion politique intitulé « La fabrique d'une nation, la France entre Rome et les Germains ». Je pense, Claude Nicolet, qu'il me semble important de revenir sur la genèse de cet ouvrage. Vous dites dans votre introduction que la réflexion sur l'idée de nation a été une conséquence de votre réflexion sur la République.
Oui, c'est la suite, si vous voulez, parce que au fond, c'est indissociable. Mais je voudrais reprendre ce que vous venez de dire. Au commencement, était Rome. Moi, je suis professionnellement un historien de Rome. J'ai enseigné l'histoire romaine toute ma vie. Je n'ai jamais pu séparer, j'en ai toujours été incapable, mais d'un autre côté, la chose qui me passionnait le plus depuis le début de mes études et de ma vie, c'est la politique la plus contemporaine, la politique dans laquelle nous sommes tous immergés. Et donc la politique en France, c'est la politique de la France. Je suis né français par hasard, mais il n'y a que ça qui m'intéresse, et il n'y a que ça d'ailleurs qu'au fond, j'ai les moyens de connaître un peu. Alors, la politique. Et la politique, pour faire quelque chose, c'est pas seulement l'histoire de la politique, les idées politiques, je n'ai fait que ça, mais ça, c'est un constat d'échec. Ma vision de la politique, j'en ai fait un tout petit peu au début de ma vie, ça partait très bien.
Vous avez été
à la meilleure des écoles que j'avais choisie, d'ailleurs, c'était pas un hasard, Mendès France. Faire de la politique, c'est essayer de faire passer dans les faits des choses qu'on désire, qu'on souhaite, des idées, des réformes, des actions. Et j'aurais bien voulu faire ça. À vrai dire, je m'y étais même préparé parce que l'école normale supérieure, quand j'y suis entré en 50, était encore, semblait-il, un des lieux où se formait, pouvait se former une partie du personnel politique. Il y avait de grands exemples. Et puis l'histoire. L'histoire parce que entre l'histoire et la politique, la frontière est indécise, il y a un continu de l'une à l'autre, et en tout cas, je crois l'histoire bien nécessaire au bagage de celui qui veut être un homme politique. Alors moi, j'ai essayé. Seulement, la politique n'a pas voulu de moi. Sans doute, elle avait raison. J'étais peut-être pas fait pour ça. Ce qui fait que je me suis retrouvé dans la peau d'un historien qui écrivait des travaux nombreux, peut-être convenables, et j'espère m'être perfectionné avec le temps, mais qui m'a éloigné quand même de la politique active, l'aspect métier de la politique, puisque j'avais choisi l'université et qu'on peut très difficilement faire vraiment de métier.
Alors, derrière cette recherche historique, vous dites que l'Allemagne est très présente, avec le souvenir de ce que vous avez vécu dans votre jeunesse.
Oui, alors d'abord il y a ça, il y a le côté existentiel, l'expérience vécue. je suis né en 1930, j'avais 10 ans en 1940, j'étais un gamin fils unique dans une famille où on lisait, où on parlait beaucoup, et croyez-moi, l'actualité, je n'y échappais pas, elle était là. À Marseille, c'était un peu loin de la frontière, mais enfin tout de même, c'était la France. Il s'y passait des événements historiques, des choses, mais il y avait peut-être d'autres raisons. Je suis en partie d'ascendance juive, mon père était juif, donc quelques raisons de se sentir sollicité très désagréablement par le climat d'avant-guerre, par la montée du nazisme, par des choses de ce genre et les activités de M. Hitler de l'autre côté de la frontière. Mais c'est pas seulement ça, vous comprenez, les Allemands sont présents dans toute la culture scolaire et la culture historique française, comme tout le monde, je croyais, depuis 1870. Vous savez, c'est ce que tout le monde dit, le choc incroyable de la guerre de 70, la défaite, et donc ce que Claude Dijon a appelé la crise allemande de la pensée française. Alors, quand on gratte un peu, quand on voit les choses plus en détail, on voit que ça ne date pas seulement de là. Au moins de 1814, peut-être depuis les débuts même de la Révolution, après tout, les premiers qui ont envahi la France, c'est les Autrichiens et les Prussiens en 1792, n'est-ce pas? Et puis bien avant. Alors, nous avions un ennemi héréditaire, et on nous l'apprend dans les manuels scolaires, qui était l'Angleterre. Mais en réalité, l'Allemagne est une obsession française depuis très longtemps. Alors, bon produit de la culture scolaire française, parce qu'on m'avait appris cette histoire-là, l'Allemagne était donc absolument présente de plus en plus, et beaucoup plus pour l'époque tout à fait contemporaine. Et puis, vous savez, je suis né en 1930, de quoi parlaient les parents? Ils parlaient de la guerre de 14, hein, on n'avait pas fini d'en parler, même ceux qui étaient pacifistes, comme dans ma famille, c'était pour essayer d'exorciser le retour de la guerre, mais enfin, la guerre, elle avait été là, on savait ce que c'était. C'était une guerre franco-allemande. Alors, moi, j'ai étudié après pour des raisons politiques, pour essayer de m'expliciter à moi-même mes choix politiques. Moi, je suis de la famille radicale, laïque, mendésiste, donc plutôt de gauche, mais certainement pas l'extrême gauche. Marxiste comme tout le monde, parce qu'il faut avoir lu Marx, c'est important, mais jamais communiste, etc. Et radical, au fond, comme Mendès. Mais il s'agissait de... D'ailleurs, j'ai commencé, c'est mon premier livre, une histoire du radicalisme. C'est vraiment un livre de débutant, jeune agrégé qui ne sait rien et qui tranche de tout. Je voulais voir plus clair. Alors, j'ai beaucoup travaillé pour l'idée républicaine en France, mais j'enseignais l'histoire romaine et je faisais des séminaires constamment pendant cette période, en 75. Et là, je voulais essayer d'en avoir le cœur net sur la notion de république. Qu'est-ce que ça veut dire être républicain en France? La nation. Je l'ai rencontrée, elle était constamment présente. Comment étudier Gambetta ou Ferry sans parler d'un certain nationalisme français, sans parler des autres?
Vous dites que vous étiez plus lié au mot de patrie qu'au mot de nation.
Eh bien oui, parce que dans la tradition républicaine, on oppose patrie. On opposait patrie et nation. Jaurès, par exemple, opposait patrie et nation. Parce que le mot nation est nationaliste, surtout ses dérivés, avait évidemment dans ma jeunesse... Encore une connotation chauvine, une connotation belliciste, droitière, enfin... Et d'autre part, les républicains eux-mêmes avaient intégré, peut-être même ils l'avaient inventé, ou en tout cas revendiqué parmi les premiers, cette idéologie de la nation. Mais évidemment dans un sens un peu différent. Quand on criait « Vive la nation » en 1790-92, avant la chute de la monarchie, c'était la nation face au roi, ou à la place du roi. Enfin, il y avait cette ambiguïté. Alors, elle y était. Et là, j'ai décidé de passer à l'étude de cette tradition, de ce mot, de ce concept. Donc, la nation France, nous dirons cette fois, d'où vient-elle? Quels ont été ses rapports avec la République? Elle est bien antérieure à la République, la nation France. Mais elle a été revendiquée par les républicains, par les autres aussi, d'ailleurs. Donc, c'est curieux. Il faut éclaircir tout ça. Et je m'y suis mis, mais en ayant l'idée qui m'est venue tout naturellement, c'était pas pour rechercher une originalité à tout prix, j'ai jamais fait ça dans aucun de mes écrits, de partir, comme je vous le disais, de mon commencement qui était Rome, qui se trouve avoir été le commencement de la France aussi. Au début, il y avait Rome qui planait, n'est-ce pas, comme l'Esprit de Dieu sur les eaux. Et à partir de ça, nous voyons un royaume germanique, puisque franc. C'était des francs, mais ces francs ont eu beaucoup plus tôt que je ne le pensais à la suite de tout le monde, c'est-à-dire bien avant 1870, bien avant 1814 ou même 1792, une façon de se définir, de se penser par rapport à un autre qui était d'autres francs d'ailleurs au départ, le partage de Charlemagne si vous voulez, mais enfin une Francie orientale, qui est devenu le royaume de Louis le Germanique, n'est-ce pas ? Mais ils se sont dit principalement francs. Et il y avait, bref, les Germaniques et donc les Allemands. Et très tôt, une façon, une attirance positive et négative, il faut bien le dire aussi, vis-à-vis de ce qui deviendra plus tard l'Allemagne. On ne peut pas parler d'Allemagne, puisque c'était ni un pays, ni un peuple unifié, ni rien du tout, jusqu'en 1870, et même en 70, les pan-germanistes disaient, mais l'Allemagne n'est pas terminée, puisqu'il y a encore de la race allemande en dehors des frontières, et de la langue allemande en dehors des frontières.
Vous écoutez Canal Académie et Un jour dans l'histoire reçoit Claude Nicollet, auteur d'un livre paru à la fin de l'année 2003, La fabrique d'une nation, la France entre Rome et les Germains, paru aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, Claude Nicollet, après une première pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Claude Nicollet, auteur du livre La fabrique d'une nation, la France entre Rome et les Germains. Alors, Claude Nicollet, venons-en à l'objet même de votre étude. Vous êtes penché sur la perception de la romanité par les érudits, disons, du XVIIe siècle au début du XXe siècle. C'est un travail historiographique. Pourquoi d'abord ce choix chronologique du XVIIe au début du XXe siècle ?
Excusez-moi, pas seulement, je ne me suis pas interrogé seulement sur leur vision de Rome, mais sur leur vision du passage de Rome à ce qui a suivi. Comment a succédé quelque chose qui deviendra, avec le temps, la nation France ? Mais vous le dites bien, c'est un livre d'historiographie. Je ne pouvais pas. Je suis un historien professionnel antiquisant. Je ne suis pas moderniste ni médiéviste et j'allais pas traiter du haut Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge, etc. Je me serais fait moquer par mes chers confrères, néanmoins amis. Donc, j'ai évité ça. Ce que j'étudie, c'est des historiens. Et je me limite bien des vrais historiens. Je me limite aux gens, au cercle où se fabriquent et les visions historiques, c'est-à-dire d'abord chez les érudits, à partir du moment où il y en a, c'est-à-dire en gros de la Renaissance, n'est-ce pas, du XVIe siècle.
Vous laissez de côté le sentiment populaire et la vision
populaire. Je ne peux pas, ce serait très intéressant, mais on ne peut pas tout étudier, il aurait fallu 20 volumes, n'est-ce pas ? Alors, les érudits et les historiens professionnels dans les siècles où le milieu se forme, si vous voulez, parce que les historiens, ce n'est pas des météores qui apparaissent comme ça dans le ciel. Il faut des institutions pour les former, donc disons des universités ou des collèges. Il faut des lieux où ils se rencontrent. Il faut leur donner des moyens de chercher, donc constituer des dépôts d'archives, etc. Il faut leur donner des moyens de publier. Et toutes ces institutions se mettent en place par étapes, mais au fond, tout commence à la Renaissance avec ne serait-ce que l'imprimerie et puis le Collège Royal en France ou des choses de ce genre. Or, ça se précise au XVIIe siècle, c'est au XVIIe siècle qu'on crée l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Au départ, ce n'était pas tout à fait de l'érudition, mais ça le devient en 1716, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, c'est un lieu où peuvent se discuter les débats sur l'histoire. Alors, j'ai étudié dans cet ensemble, l'essentiel, je crois que je n'ai pas oublié grand-chose, de la littérature, des polémiques, des débats qui étaient consacrés précisément à l'origine de notre monarchie, comme on disait au XVIIIe siècle encore, c'est-à-dire les trois races de nos rois, et ils sont tous d'accord pour le faire remonter à Clovis. Et puis la seconde race, les Carolingiens, et puis les Capétiens, etc. Et j'ai essayé de lire à peu près tout ce qui s'est débattu, ce qui s'est discuté, ce qui s'est publié sur ces questions-là, qui se trouvaient dès cette époque synthétisées par des gens qui étaient ou qui n'étaient pas du milieu académique, mais qui en étaient proches de toute façon, et qui étaient en tout cas dans les milieux du pouvoir, parce que c'est ça qui est important, c'était des questions d'actualité, en quelque sorte.
Il y a toujours un lien entre la modernité et l'antiquité, au fond.
Toujours. Et entre la politique et l'érudition ou l'histoire.
On justifie le temps présent par l'étude du passé.
On essaie, ou on le justifie, ou on le repousse, ou on veut le remplacer par autre chose. Mais c'est toujours, l'histoire est toujours pensée comme un argument de la politique, si vous voulez. Alors j'ai recherché les textes, j'ai recherché les grands thèmes, et naturellement tout se dessine vraiment, si on prend l'allure qui durera alors pour deux siècles, qu'on retrouve encore dans des ouvrages du début du XXe siècle, au début du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Sous les noms emblématiques de Boulainvilliers, de Dubos, sur la querelle entre la théorie germaniste et la théorie romaniste, des origines de la monarchie, sous-entendu, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y en a bien d'autres, et j'attache beaucoup d'importance à des grands érudits comme Nicolas Fréré, l'abbé de Vertot, etc.
Si vous le voulez bien, est-ce qu'on pourrait s'arrêter quelque temps sur cette polémique entre Boulainvilliers et l'abbé Dubos ?
Il le faut, c'est très important.
Et vous dites que c'est l'invention par ces deux personnages du germanisme
et
du romanisme.
Les mots n'étaient pas prononcés, les mots apparaissent autant que j'ai pu le voir après la guerre de 1870. Alors pourquoi ? Vous savez, la France est un pays où la littérature a un rôle politique. Alors, quand Montesquieu, avec son livre, consacre 12 chapitres de son livre à discuter les théories de Boulainvilliers et de Dubos, sans les avoir d'ailleurs très bien compris ni l'un ni l'autre. Mais c'est la preuve que c'était quelque chose d'important. Et je crois que nous devons croire Montesquieu sur ce point, même s'il s'est trompé dans les interprétations. C'est lui qui a lancé une formule heureuse, tout à fait magnifique, de livres qui sont comme deux conjurations. Une conjuration contre la noblesse, c'était l'abbé Dubos, et l'autre, une conjuration contre le tiers-état, c'était Boulainvilliers. Boulainvilliers étant de peu antérieur à l'abbé Dubos. Alors voilà. Alors de quoi s'agit-il, si vous voulez que je dise un mot des deux auteurs? En réalité, moi j'ai lu tout ce qui a été imprimés, et même des manuscrits, sous le nom de ces deux auteurs. Ce que aucun des historiens postérieurs, sauf peut-être Augustin Thierry, qui avait tout lu quand il était jeune, avant de devenir aveugle, aucun ne les a lus d'aussi près que moi, sauf les gens qui ont fait des monographies. Il faut les lire complètement pour bien les comprendre. D'autant que on lit, une petite remarque incidente, les auteurs de cette époque, même dans leurs livres imprimés, c'est aussi mal foutu leurs éditions que les problèmes de manuscrits avant. Autant dire, c'est pas des textes qui sont encore bien établis, comme nous dirions philologiquement. Alors en particulier Boulainvilliers, dont les éditions imprimées sont, pour tout dire, un foutoir, extrêmement trompeuse. Donc il faut aller le lire de très près et essayer de voir où et quand il a exprimé ses idées. Or Boulainvilliers, qu'on accuse des pires à l'heure actuelle, surtout depuis 50 ou 60 ans, parce que c'est la théorie du droit de conquête des peuples germaniques, d'un peuple germanique, les Francs et le roi en France, n'est-ce pas? Présenté comme ça, c'est abominable, c'est du racisme, c'est de l'hitlérisme, c'est très bien, de vertueux auteurs contemporains qui ne l'ont pas lu ou très mal lu, Michel Foucault pour ne pas le citer, sont allés dans ce sens. Bon, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, comme toujours, parce que Boulainvilliers était considéré comme un libéral, comme un de ceux qui étaient opposés à à la monarchie de Louis XIV finissant, donc que nous appelons l'absolutisme de Louis XIV. Il faisait partie des cercles qui espéraient venir au pouvoir avec le duc de Bourgogne, donc Fénelon, etc. Et tous ces écrits sont faits pour... C'est pas spécifiquement sur la noblesse. On croit qu'il n'a écrit que sur la noblesse parce qu'on a publié après sa mort un livre en extrayant de ses innombrables manuscrits un chapitre sur la noblesse. Non, au fond, il s'en fichait. Et il s'était beaucoup occupé de l'ensemble des états généraux, ça oui, c'est-à-dire des institutions représentatives, entre guillemets, de l'ancienne France, la réunion des trois ordres pour aider le roi de ses conseils qui, à son sens, avait été complètement bouleversé et effacé par la montée de l'absolutisme, d'un absolutisme qui était antinobiliaire en ce sens qu'il était au détriment de la noblesse d'épée qui ne savait faire qu'une chose mais qu'il faisait bien se faire tuer pour le roi, donc noblesse militaire et qui avait le monopole de mourir pour la patrie, et puis la montée abominable de l'argent, de l'intrigue, de la finance sous l'influence des reines italiennes ou des tous les gens qu'ils n'aiment pas, et naturellement les Robins, la noblesse de robe, la nouvelle administration. Et au fond, il y a beaucoup plus de pages consacrées à la haine qu'il a contre l'administration des intendants, l'administration des finances, qu'à l'éloge d'une noblesse dont il dit lui-même, de toute manière, je vois cette noblesse qui était légitime au fond, parce que c'est dur à dire, il dit c'est dommage, mais elle avait le droit de conquête pour elle, elle avait victorieusement conquis la Gaule, mais tout ça est terminé pour lui depuis le 8e siècle après Jésus-Christ, c'est le 8e, 9e. On n'en parle plus parce que il est tout à fait normal que le reste de la population ait été émancipée et participe à la bonne administration du royaume, n'est-ce pas, devrait participer à la bonne administration du royaume. Alors, vous voyez que les idées de Bounainvilliers sont beaucoup moins sommaires et beaucoup moins racistes. Il est raciste comme, naturellement, tout le monde. Enfin, je veux dire, tous les nobles. Montesquieu croit aux grandes familles. Fénelon, il n'y a rien de plus raciste que l'idéologie de noblesse moralisante, une noblesse tout à fait honnête et vertueuse et merveilleuse de ça. Bref, au fond, ils illustrent tous le mot bien connu de Chateaubriand, qui a dit, vous savez, l'aristocratie, il y a trois âges dans l'aristocratie, l'âge des supériorités, l'âge des privilèges et l'âge des vanités. Elle se forme, elle est née dans le premier âge, elle dégénère dans le second, elle dégénère à l'heure des privilèges et elle disparaît couverte de ridicule à l'ère des vanités. Alors, au fond, Bounainvilliers n'est pas loin de ce genre d'idéologie. Alors voilà pour Bounainvilliers.
Alors justement, il est opposé à l'abbé Dubosc.
Il est opposé parce que lui n'a jamais parlé de l'abbé Dubosc. Il écrivait un livre pour l'édification du futur roi de France et puis éventuellement pour ses enfants. Donc l'abbé Dubosc, lui, c'est entièrement différent comme type de livre. Lui, c'est un diplomate formé à ce qu'on appelait l'Académie de Torcy, donc le Colbert de Torcy avait établi une espèce d'ENA pour de lieux où on apprenait aux jeunes et brillants. Alors Dubosc était un jeune ecclésiastique qui voulait devenir diplomate, comme c'était normal à l'époque, et éventuellement accéder aux affaires, pourquoi pas, hein, comme ils faisaient tous. Et il s'est fait la main avec une série d'ouvrages qu'on lui avait commandés, d'histoire diplomatique sur des divers traités qu'avait signés la monarchie au fin du XVIe, au XVIIe siècle, etc. Il avait été envoyé par le ministre pour être le chef de la délégation française pour je ne sais plus quelle négociation, donc un diplomate. Et il écrit à un moment, c'est pas à peine, il explique pourquoi, parce qu'il a trouvé des erreurs dans les livres d'histoire qu'il lisait, n'est-ce pas ? Il décide d'écrire un livre sur, très exactement, les origines, alors le titre exact, je ne me rappelle plus, les origines de la monarchie française. Et c'est un livre qui est, dans un sens, très original et extrêmement moderne, parce que pour la première fois, c'est un livre où nous trouvons des discussions d'érudition menées en fait avec les techniques diplomatiques, des gens qui savent discuter sur les clauses d'un traité, c'est très juridique, et où il reprend toutes ces questions et où il traite d'une période intermédiaire, donc à cheval sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. Donc c'est pas Werner qui a inventé, vous voyez, le fait de dire il n'y a pas de
continuité. Mais
naturellement, le principe de continuité, il est dans Dubos. Seulement, Dubos, lui, avait cru pouvoir prouver qu'il n'y a pas eu de conquête. Il n'y a pas eu de conquête franque. Que les rois francs et leur peuple étaient, au fond, des troupes spéciales de l'armée romaine qui avaient été appelées, installées et légitimées en quelque sorte par les empereurs romains avant la chute de l'Empire romain. Et à partir du moment où ce que nous appelons la chute de l'Empire romain, il sait très bien que ce n'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe en 476 ? Il y a un roi barbare en Italie, mais qui a des fonctions romaines, qui supprime l'Empire d'Occident en renvoyant les insignes à l'empereur d'Orient et en écrivant à l'empereur romain d'Orient, l'Empire est de nouveau unifié. Donc, il n'y a pas de fin de l'Empire romain. Il y a presque, on pourrait dire, c'est le retour fictif, naturellement, de la partie occidentale de l'Empire romain dans le giron de la partie orientale. Seulement, à cette époque, l'empereur de Constantinople était bien loin, naturellement. Mais cet empereur de Constantinople a malgré tout entériné, en quelque sorte, par des honneurs, peut-être par une délégation, alors des discussions érudites sans fin, à Clovis lui-même, roi des Francs, de pouvoir de type romain, de type impériaux. Et puis au fond, pour Charlemagne, c'est un peu la même chose, parce que le couronnement à Rome, par les mains du pape, entre-temps, l'Église de Rome était devenue un pouvoir indépendant et important, a été entériné par l'Empire d'Orient. Charlemagne ne s'est jamais fâché avec les impératrices et les empereurs de Constantinople, n'est-ce pas ? Alors, voilà la thèse que défend Dubos. Alors, il n'y a pas eu de conquête, donc les habitants, les Gaulois, les Gallo-Romains, ne sont pas devenus les serfs de la noblesse franque, etc., etc. Et, en somme, le pouvoir des rois de France n'est que l'héritage légitime, alors il le dit très clairement, c'est ce que je dis, je n'invente pas, je cite longuement des passages, il faut lire en détail tout ça dans un chapitre, il le tire. C'est la seule des monarchies européennes légitimes parce que c'est la seule qui remonte aux Romains. Et il énumère diplomatiquement toutes les raisons. Alors, c'est ce type de démarche que j'ai fait. D'abord, il faut lire sérieusement toutes ces choses-là de très près. Mais ce thème des deux peuples, hein, la noblesse d'origine germanique, les Gaulois réduits en esclavage, alors, va être repris constamment par tous les successeurs, n'est-ce pas ? À la fin du XVIIIe siècle, des gens qui ne sont pas vraiment grands historiens, c'est pour ça que j'en parle pas tellement, mais qui a une réputation fantastique et qui est le maître à penser de tout le monde, y compris de Napoléon, de Bonaparte, n'est-ce pas ? C'est Mably. Alors Mably parle là-dessus, Montesquieu, nous l'avons vu, et bien d'autres.
Je rappelle que vous écoutez Canal Académie et que je reçois Claude Nicollet, historien, auteur d'un livre paru aux éditions Perrin, La fabrique d'une nation, la France entre Rome et les Germains. À tout de suite.
Canal Académie.
Je reçois Claude Nicollet de l'Institut, auteur d'un livre, La fabrique d'une nation, La France entre Rome et les Germains, paru aux éditions Perrin. Alors nous évoquions Boulainvilliers et l'abbé Dubos, il y a bien d'autres auteurs à évoquer, et vous les évoquez dans votre livre, et nous allons faire, si vous le voulez bien, un saut dans le temps pour parler de deux grands personnages du 19e siècle, Guizot d'une part et Augustin Thierry. Alors il y a chez Guizot une véritable œuvre politique d'éducation à mener de manière générale.
Oui, ce sont non seulement l'un et l'autre des historiens qui ont été professeurs d'histoire. Guizot, prof d'histoire à la Sorbonne, avant de faire une carrière administrative et politique, n'est-ce pas ?
C'est l'époque où il y a une professionnalisation de l'histoire.
Oui. Oui, et surtout, ils vont contribuer à le faire. Alors, au fond, l'inventeur de la professionnalisation de l'histoire, c'est précisément Guizot, qui, sous la monarchie de Juillet, a fait créer par le roi, contribué à créer tous les instruments de l'histoire en France. Les monuments historiques, la Société pour l'histoire de France, la publication, la grande publication érudite, tout ça, Guizot l'a favorisé et il y a placé des gens comme Augustin Thierry, par exemple. Donc, il joue un rôle important. Et puis, il a une vision de l'histoire de la civilisation. Or là, on voit que, passé la tourmente révolutionnaire qu'avait cru pouvoir, en revenir à l'antiquité pure et dure, passé les illusions carolingiennes de Napoléon, parce qu'il faut bien dire que quand Napoléon s'installe dans un empire, c'est pas Jules César ou Auguste qu'il veut refaire, c'est Charlemagne. On a des textes officiels et formels là-dessus. Avec la charte, avec le retour des Bourbons, 1814 et puis 1830 surtout, on arrive en France, les gens ont le sentiment qu'ils entrent dans une période d'apaisement et où on va pouvoir s'occuper de choses sérieuses, enrichissons-nous par le travail et l'épargne, et puis surtout s'apaiser. Et qu'est-ce qui doit s'apaiser ? C'est cette éternelle lutte des races et lutte des classes qui avait marqué toute l'histoire de la monarchie juste en 89, et dont 89 était l'aboutissement dans une affreuse guerre civile révolutionnaire, n'est-ce pas ? Alors tout ça est terminé ou doit être terminé. C'est le sens, pour aller vite, à la fois de l'œuvre L'histoire de la civilisation en France, de Guizot ou en Europe, et de son ami et disciple Augustin Thierry. Il y avait la lutte des races entre le fond gallo-romain, et c'est alors, pour Guizot, ces Germains, qui ont été d'abominables conquérants, mais ils avaient tout de même apporté une chose, c'est la liberté germanique. Ça, c'est une vision très protestante. Au fond, ils voient dans les Germains la matrice de Luther et de celui qui a libéré l'esprit, libéré de quoi ? Du dogme catholique. C'est ça, Guizot. Et donc, les Germains, il faut leur être éternellement reconnaissant parce qu'ils ont amené en Europe et en France, donc, la liberté. Et Augustin Thierry, pas du tout. Augustin Thierry, qui a été dans sa jeunesse simonien, etc., pense que les Germains, c'était d'abominables mangeurs d'hommes, il le dit, c'était d'affreux barbares et des gens de la conquête et du viol. C'est pour ça qu'il va écrire les récits des temps mérovingiens, mais qui racontent les pires abominations et les pires horreurs quand on sait les lire, la bestialité de cette monarchie mérovingienne et de cette noblesse de l'époque, ce sont d'abominables prédateurs, disons, et au détriment du pauvre paysan gallo-romain. Mais le pauvre paysan gallo-romain, aidé par les bourgeois des villes, va se libérer peu à peu, tout seul, et c'est les origines du tiers-état dont il va écrire à la fin de sa vie, l'histoire qui va arriver jusqu'en 1789. Donc, fin de la lutte des classes qui est, pour tous les deux, une lutte des, pour Guizot et lui, une lutte des races. Mais fin par la victoire de la bourgeoisie roturière, des roturiers, disons, il dit souvent les roturiers, tous ceux qui ne sont pas nobles, et les nobles ont été vaincus, expulsés, ont émigré ou guillotinés éventuellement sous la Révolution, et maintenant ça doit être fini. Place à Louis-Philippe et à la bourgeoisie, la meilleure des monarchies, et le dit Augustin Thierry dans une phrase extraordinaire, la fin de l'histoire. L'histoire va s'arrêter avec la monarchie de Juillet. Alors après, il faut lire ce qu'il écrit après avoir vu 1848. Il n'est pas content. Mais Guizot lui dit, ça ne fait rien. Il y a eu encore des révolutions, des sursauts, un coup d'État. Mais néanmoins, on va en venir à la fin d'histoire qui est la démocratie parlementaire.
Vous écoutez Canal Academy et je reçois Claude Nicollet de l'Institut. Nous sortons, vous venez de le dire, avec Guizot et Thierry, des débats sur les aspects sociaux et institutionnels sur la conquête et la romanité. Et nous entrons dans une nouvelle ère, je vous cite, vous dites, nous entrons dans une ère, une anticipation des accents nationalistes qui devaient pénétrer l'historiographie en France et en Allemagne dans les années précédant la guerre de 1870.
Tout commence en réalité dans les années 1848-49.
Il y a un réel tournant.
Ah oui, oui. Ben, la diète de Francfort, il faut voir les débats. Ils réclamaient déjà l'Alsace et la Lorraine, n'est-ce pas, les républicains allemands à cette époque. Et même on peut remonter en 1840, il faut relire Heine pour le savoir. Et mais
vous dites d'ailleurs dans votre livre que chez Michelet, chez Madame de Staël, l'Allemagne est très présente.
Voilà. Alors, il y avait les Français qui avait une vision idyllique de l'Allemagne, d'une certaine Allemagne qui le mérite d'ailleurs, et qui était l'Allemagne idéaliste, l'Allemagne poétique, l'Allemagne musicienne, puis l'Allemagne de Goethe, qui n'est pas antipathique à la France, n'est-ce pas, ni pour la France, etc. Donc, ce qui est plus important, c'est de voir naître une question franco-allemande, n'est-ce pas? Une question typiquement franco-allemande. Vous connaissez le mot pendant les négociations après la guerre en 71, à la fin de la guerre 1871, entre Jules Favre ou je ne sais qui, Thiers ou Jules Favre, je crois, et Bismarck. Lorsque, je ne sais plus si c'est Bismarck ou Ranke qui l'a dit à Jules Favre, nous ne faisons pas seulement la guerre à Napoléon III, nous l'avons gagné, nous faisons la guerre à Louis XIV. Au fond, à ce moment-là, du fait du progrès des études historiques en Allemagne, etc., les Allemands se considèrent comme victimes d'une abomination. C'était les traités de Westphalie, 1648, et ils disent, nous avons été les martyrs de la France depuis cette date. Alors le sac du Palatinat, l'affreux Louis XIV, la France cruelle et perfide, comme le disent les pamphlets protestants imprimés en Hollande contre Louis XIV. Et alors les Allemands disent, nos ennemis qui nous ont toujours empêchés de vivre, empêchés d'être, c'est les Français. Et ça commence alors, je vous dis, vers 1848-49, mais encore plus au moment où Bismarck finit par arriver un peu par hasard et décide d'aider le roi de Prusse à faire l'unité allemande sous une forme, ce qu'elle n'était pas d'accord avec son roi d'ailleurs. Et donc, ça commence là, ça commence avant 1870, la question franco-allemande. Les plus lucides des Français le savaient bien. Il y avait Prévost-Paradol, il y avait naturellement Thiers, qui a fait toute sa seconde carrière de président de la République, enfin après 70, sur le fait qu'il avait, depuis 1800, depuis Sadova et même un peu avant, averti du danger allemand des nuages qui s'accumulaient en Allemagne, mais il y en avait d'autres que lui, n'est-ce pas? Alors, cette question franco-allemande, elle relaie, vous voyez, sous d'autres aspects, le problème des invasions, parce que naturellement, on va reparler des plus anciennes invasions germaniques, puisqu'on se croit menacé, on se sent menacé par un expansionnisme allemand qui réclame les Bouches du Rhin, qui réclame tous les pays qui ont été pris à ce qui était l'Allemagne depuis Louis XIV. Ils veulent récupérer la Lorraine, la Franche-Comté, etc., etc. Et cette question franco-allemande, elle obsède les historiens. Même ceux qui partaient pour faire de l'histoire ancienne, comme le membre de l'école d'Athènes Fustel de Coulanges, mais qui très vite nommé professeur à Strasbourg dans les années 1860, avant la guerre de 70, se met à faire de l'histoire médiévale, moderne et contemporaine et à écrire sur les origines des institutions de l'ancienne France, c'est-à-dire sur la période du Haut Moyen-Âge et sur le rôle des Allemands, des Germains, n'est-ce pas, là-dedans. Et pour conclure, lui, nous ne sommes pas, nous n'avons jamais été germanisés, nous Français, nous sommes des Latins, nous sommes Romains. Et nous resterons romains. Nous
dites à propos romains. De Fustel, et l'historiographie a souvent retenu deux Fustel, celui d'avant 1870, celui de la cité.
Ben, je viens de vous dire que ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas le cas.
Il avait commencé à réunir les notes et à penser à faire des cours sur ce qui deviendra son grand livre inachevé, en un volume inachevé, Les institutions politiques de l'ancienne France, c'est un livre sur le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, et qu'il voulait prolonger jusqu'à Louis XIV, il n'a pas eu le temps, il avait commencé à le faire bien avant. Et lorsqu'en 1869, on lui demande de faire des conférences d'histoire aux Tuileries, c'est-à-dire à la cour, donc c'est l'empereur qui l'invite, et l'impératrice, c'est pas un hasard. Il est un jeune et très brillant prof, rendu célèbre par La Cité antique, qui est un livre à la fois prémonitoire, avec un ou deux éclairs extraordinaires, mais un livre de jeunesse, dans un sens. Et c'est là qu'il explique son programme, ce qu'il va faire, et il dit... Majesté, je vais vous prouver que nous sommes des Latins. Voilà, c'était à la même époque que Napoléon III voulait faire l'Union latine, hein, y compris au Mexique, avec un empereur autrichien. Bon.
Donc lui, il insiste également sur cette continuité.
Alors, il insiste sur la continuité, il minimise l'apport des Germains, y compris dans les questions juridiques, dans l'histoire de la propriété, pour montrer que tout se préparait au Bas-Empire. Bon, il y a bien des petites choses qu'on a pris à ces troupes de barbares germains qu'on a installés ici ou là, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la Gaule romaine. Et une génération plus tard, le meilleur élève, le plus chéri en tout cas de Fustel, Camille Julian, finira par se faire, après avoir hésité, il voulait être un historien de Rome, il va en Allemagne écouter le grand historien Théodore Mommsen, qui n'était pas du tout un nationaliste, qui était un nationaliste allemand, mais pas du tout exagéré, et qui, à la fin de sa vie, était en opposition avec les pan-germanistes, avec les antisémites, et même avec le gouvernement de son pays, avec l'Allemagne de Guillaume II. Mommsen, donc, qui avait été le grand historien de la République romaine, de César et de ça, comme Napoléon III, qui avait été l'historien de César. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est très important, parce que Napoléon III a donné beaucoup d'argent pour les études archéologiques et historiques sur sa cassette. Il a fait faire d'énormes recherches et il était politiquement passionné par le sujet.
Vous dites que nous reposons beaucoup sur l'œuvre encore aujourd'hui de Mommsen.
Ah ben, fondamentalement, pour la discuter éventuellement, pour discuter certaines de ses conclusions, mais il a réuni le premier, les documents et les instruments de travail dont se sert toujours la science moderne, sauf ceux qu'on a trouvés depuis sa mort, après lui, mais qu'on a trouvés grâce à lui, parce qu'il a créé les collections, les instruments de travail qui les réunissent. Et donc, c'est gigantesque, Mommsen. Et alors, je reviens à Camille Julian, qui va chercher, qui nie l'influence des invasions germaniques, lui aussi, naturellement. Mais il va encore plus loin, car il n'aime pas Rome, il n'aime pas l'Empire romain, qui est pour lui un régime... Alors, il est protestant, n'est-ce pas ? L'Empire romain, pour lui, est toujours un peu suspect d'être catholique et d'avoir engendré le pape. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne lui pardonne pas. Et donc, il va rechercher beaucoup plus loin et il invente... Il n'invente pas, mais du moins il met en forme alors dans une œuvre monumentale et puis avec une autorité de double académicien, de prof au collège, etc. Nos ancêtres, les Gaulois, la Gaule, l'histoire de la Gaule.
Donc ça c'est Camille Julian, et Camille Julian, si vous voulez bien, monsieur Nicolet, nous en parlerons après une dernière pause. À tout de suite.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Claude Nicolet, auteur d'un livre intitulé « Fabrique d'une nation, la France entre Rome et les Germains » paru aux éditions
Perrin. Alors, nous évoquions le dernier grand personnage que vous abordez dans votre livre, qui est Camille Julian. Camille Julian, on sent chez lui un certain volontarisme. Bon, il est marqué, bien évidemment, par la guerre de 14. Et comme vous dites, c'est une époque où on ne faisait guère d'œcuménisme.
Oui, surtout à la fin de sa vie. Mais ce qui est remarquable, c'est que les textes qu'il a écrits et publiés pendant la guerre de 14, des leçons au Collège de France, dont je cite les titres, là, sont naturellement, reflètent le climat patriotique, nationaliste de l'époque, mais toujours avec une grande sagesse, refusant de tomber dans les délires anti-allemands de certains. Julian était resté un républicain français, pas du tout Action française, et il était, il pouvait pas, il était protestant. Et donc, voilà. Mais je voudrais revenir sur un fait. J'ai essayé de marquer au cours de ce livre, périodiquement, au moment de la fondation de l'Académie des inscriptions et belles-lettres au XVIIe et surtout au début du XVIIIe siècle, puis avec Guizot et Augustin Thierry au début du XIXe, la création des grandes institutions de recherche historique en France, des sociétés, des revues qui se créent, des monuments historiques, etc. Je voudrais insister sur la connexion qu'il y a toujours eu entre l'élaboration de cette histoire nationale qui se joue de plus en plus autour du couple franco-allemand, du couple opposé franco-allemand, comme j'ai essayé de le montrer, avec précisément l'organisation de l'histoire officielle, je ne veux pas dire l'histoire officielle, c'est la vraie histoire, la seule, mais l'organisation officielle de la recherche historique en France. Et en particulier, ça commence, Guizot, nous l'avons vu, mais une étape importante, c'est le Second Empire, parce que Napoléon III s'est mis à devenir, à la fin, il est en 1858, il était empereur depuis un bout de temps, a voulu se faire un historien et l'historien sérieux de Jules César. Alors, il a eu des collaborateurs, mais ce qui est tout à fait original, au fond, il avait des idées historiques extrêmement originales, d'appuyer ça sur des études de géographie, de topographie historique, d'histoire militaire, etc.
Il organise un véritable outil de recherche, vous le montrez admirablement.
Il organise un véritable outil de recherche. Il se fait aider par les meilleurs français ou allemands de son temps. Il fait réunir des dossiers. Il dit lui-même qu'il ne pouvait pas tout faire, etc. Mais
ce n'est absolument pas de l'histoire gadget. Là, on est vraiment dans un travail.
Alors, il y a un aspect politique, définir ce qu'était le véritable césarisme, c'est-à-dire la dictature démocratique qu'il prétend représenter, qu'il prétend que son oncle avait représenté, c'est vrai ou faux? C'est plutôt faux, je crois. Et enfin non, c'est ce que Napoléon a dit à Sainte-Hélène. Mais c'est pas ce qu'il disait en 1804 ou en 1810. Mais surtout, ça a donné l'occasion, comme il était empereur, qu'il avait le budget de la France à sa disposition, non pas pour lui, mais et une liste civile importante, il a dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour créer des instruments. Le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, c'est lui qui le fait créer, la chaire d'épigraphie latine au Collège de France, l'école pratique des hautes études, n'est-ce pas? Tout ça, c'était lui et ses conseillers qui lui proposaient de le faire, et puis des relevés topographiques très importants que son collaborateur, le colonel Stoffel, qui avait été entre-temps attaché militaire à Berlin de 1866 à 1870, n'est-ce pas? Donc il connaissait un peu les questions franco-allemandes aussi, continuera, achèvera son œuvre, et tout ça, c'est un moment très important. Mais ce moment culmine un peu après, dans les années 72, 73, 75, et dans un épisode qu'il faut mentionner, j'ai pas le temps d'y assister, qui est la création de l'École française d'archéologie et d'histoire à Rome, qui est occasionnée par le fait qu'il y avait un institut international qui était à prédominance allemande, mais où la France, y compris du temps de Napoléon III, jouait un rôle important, donnait beaucoup d'argent, des livres, etc. Et vous voyez l'importance de ces questions-là, l'histoire romaine, etc., que Bismarck fait nationaliser, et il le fait nationaliser par un décret signé, c'est-à-dire germanisé, par un décret signé à Versailles. en 71. Alors la France ne pouvait pas y rester, et Thiers, on discute dans les milieux académiques, qu'est-ce qu'on va faire, et on décide de créer, par étapes, mais enfin c'est fait définitivement en 1875, une école française de Rome. Donc pour donner à la science française les moyens de rivaliser avec la science allemande, n'est-ce pas? C'est la compétition érudite qui se joue entre la France et l'Allemagne. Alors au milieu de tout ça, il y a la personnalité de Mommsen, il y a beaucoup de choses de ce genre, et il est significatif que le second directeur, mais qui a été le premier en fait à organiser l'école, ait été un germaniste. On a nommé à la direction de l'école française de Rome un grand universitaire, membre de l'Institut, prof de la Sorbonne, Auguste Geoffroy, mais qui était spécialiste de l'Allemagne et des pays scandinaves, n'est-ce pas? Ces questions franco-allemandes ont eu des effets, y compris, voyez-vous, sur
dans les milieux
l'organisation et donc l'orientation de la recherche. Or, le protectorat en Tunisie est de 1881, le traité du Bardo. Et dès ce moment-là, la recherche française sur Rome s'oriente préférentiellement sur l'Afrique du Nord. Et tout ça est extrêmement conscient. Les contemporains le notent, et Bismarck était très content. À ce moment-là, on le sait, il a trouvé que la fondation, que l'école française de Rome était une excellente chose. Et si les Français peuvent aller du côté de l'Afrique du Nord plutôt que de penser à la ligne bleue des Vosges, il en était très content.
Eh bien, Claude Nicollet, c'est sur cette anecdote avec ce cher Bismarck que nous allons nous quitter. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Ancien directeur de l'École française de Rome, vous avez publié L'idée républicaine en France chez Gallimard. Et je renvoie nos auditeurs, les auditeurs de Canal Académie, à La Fabrique du Nation, la France entre Rome et les Germains, paru aux éditions Perrin. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci.